RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir, Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'information africaine, la MONUSCO dit vouloir favoriser une désescalade des tensions dans l'est de la République démocratique du Congo. Déclaration ce soir de la chef de la mission onusienne dans le pays, Bintou Keïta, qui a rencontré ce vendredi à Goma Corneille Nanga, le chef de l'AFC M23 qui contrôle la capitale du Nord Kivu. Et c'est justement dans ce contexte que nous reviendrons également sur ce rapport de Médecins Sans Frontières, document qui alerte sur l'augmentation des violences basées sur le genre dans l'est de la RDC, violences qui ont atteint un niveau alarmant selon l'organisation. Nous irons aussi au Mali où un convoi de l'armée et de l'Africa Corps visé par une attaque dans le nord, attaque des indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad. Le FLA revendique une victoire, l'armée malienne affirme que la situation est sous contrôle. Et puis nous irons également à Nice, dans le sud de la France, où s'est achevé le sommet des Nations Unies sur l'océan. Pas moins de 153 pays réunis pendant une semaine pour tenter de mieux protéger les océans. Nous verrons que les pays africains ont fait avancer plusieurs dossiers. Avant de développer ces titres, l'information de cette soirée, c'est la riposte de l'Iran sur Israël. Des dizaines de missiles tirés ce soir sur le territoire de l'État hébreu où les sirènes ont retenti à travers le pays. Des explosions entendues à Jérusalem et Tel Aviv. Les secours israéliens ont pris en charge une trentaine de blessés. C'est la réponse aux frappes menées la nuit dernière par Israël en Iran, notamment sur des sites militaires et nucléaires. De nouvelles attaques israéliennes ont d'ailleurs été menées ce soir en Iran. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a prévenu ce soir, je cite, « Il y en a plus à venir ». On reviendra largement sur la situation dans notre prochaine édition à 23h temps universel. Et en direct est à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Retour à l'actualité africaine à Goma ce vendredi. De longues heures d'échange entre la représentante des Nations Unies en République démocratique du Congo, chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, et les responsables de l'AFC M23 qui contrôle la capitale provinciale du Nord Kivu depuis le 26 janvier. À ce stade, peu d'informations ont filtré du contenu des discussions qui interviennent en amont du prochain point que doit faire Bintou Keïta auprès du Conseil de sécurité fin juin. Explication François Mazé.
Arrivée la veille à Goma, la délégation de la MONUSCO menée par Bintou Keïta a passé la quasi-totalité de la journée avec celle de l'AFC M23. Face à la représentante d'Antonio Guterres, le coordonnateur du groupe Corneille Nanga et le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois. Dans un post lacunaire sur les réseaux sociaux, la MONUSCO a expliqué que la réunion avait pour but d'échanger sur la mise en œuvre du mandat de la mission, notamment la protection des civils. À la sortie des discussions devant la presse, Bintou Keïta a dit le minimum, expliquant qu'elle présente très prochainement ses conclusions au Conseil de sécurité.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise.
Selon un cadre de l'AFC M23 joint par RFI, cette prise de contact a permis aux deux parties d'apprendre à se connaître. En mars, Corneille Nanga avait déjà reçu Bruno Le Marquis, le numéro 2 de la MONUSCO.
Explication signée François Mazé. Et on en vient à cette nouvelle alerte de Médecins Sans Frontières sur les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Une situation particulièrement inquiétante dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, en proie à un conflit depuis plus de 3 ans. Conflit qui oppose, je vous le rappelle, le groupe armé AFC M23 soutenu par le Rwanda voisin et l'armée congolaise et ses alliés. Depuis le début de l'année, Pauline Azidi, MSF constate une augmentation des violences basées sur le genre, violences qui ont atteint un niveau alarmant, écrit l'ONG dans un rapport publié cette semaine.
Depuis plus de 3 ans, MSF dit constater une situation qui se dégrade et de pointer les 40 000 cas pris en charge en 2024 par l'ONG uniquement dans la province du Nord Kivu, un chiffre sans précédent, précise l'organisation. Et la tendance pour 2025 est alarmante. Déjà 7400 victimes enregistrées à Goma, 2400 à Sake et 700 dans le sud Kivu. Des agressions dans leur grande majorité commises par des porteurs d'armes. Ces violations sexuelles affectent en premier lieu les femmes, mais aussi de plus en plus d'enfants. Près de 13% des victimes sont des mineurs. Des données qui recoupent celles du Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies, qui en avril avait constaté une augmentation de plus de 152% des violences basées sur le genre entre janvier et février. Si les chiffres sont quasiment similaires pour le mois de mars, l'ONU prévient que ces capacités de monitoring dans les zones sous contrôle de la FCM23 sont fortement impactées par l'insécurité et les contraintes d'accès. Des chiffres selon MSF sous-estimés par rapport à la réalité, car nombreux sont les obstacles pour accéder aux soins, prévient l'ONG. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et pour aller plus loin sur le sujet, Pauline Azidi s'est entretenue aussi avec Emmanuel Lampart, le représentant de Médecins Sans Frontières en République démocratique du Congo.
L'impact des violences sexuelles qui affectent, rappelons-le, les femmes, mais aussi des enfants. L'impact de ces violences sexuelles est connu et documenté de longue date. En plus de ces violences sur la santé physique et mentale, c'est les conséquences sociales qui sont dévastatrices. D'autant plus, à ce moment de l'année et cette année particulière, avec les coupes budgétaires, il est clair que l'accès et l'offre de soins est devenu de plus en plus difficile. Plusieurs structures de santé n'ont plus de médicaments et de kits nécessaires pour soigner ces survivants. Et face aux réductions de financement, je crois que ce témoignage à travers le rapport veut mobiliser davantage.
C'est pas la première fois qu'MSF alerte sur le niveau de violence sexuelle, d'autant plus depuis la reprise de ce conflit il y a plus de 3 ans. Pourquoi on n'arrive pas à mettre fin à ce phénomène ?
Les sous-investissements avec assez d'impact en termes de prévention de ces violences, bien évidemment et malheureusement, liés aussi à un conflit persistant et un conflit qui davantage s'est élargi. Mais au-delà, bien évidemment, je crois que tout le monde aspire, et les survivants et survivantes avant tout, qu'un paix puisse se rétablir et qu'effectivement une réinsertion, réintégration sociale et dans la communauté puisse avoir lieu.
Parce que les conséquences de ces violences sexuelles, elles se mesurent sur des années. C'est du suivi psychologique, du suivi de la communauté pour faire en sorte que ces violences sexuelles n'aient pas d'impact sur plusieurs années pour les victimes.
Tout à fait. C'est pas uniquement le moment de l'incident, le moment de la violence, mais c'est effectivement un suivi des années. Et les proportions de réelle réinsertion, réintégration sociale, familiale, communautaire, en disent très long sur l'impact, les conséquences sociales, notamment très dévastatrices, sur l'individu, sur sa famille, sur la communauté et sur l'ensemble des communautés présentes, notamment dans le nord et sud Kivu.
Voilà Emmanuel Lampart, le représentant de Médecins Sans Frontières en République démocratique du Congo, répondait aux questions de Paulina Jidi. Et puis retour au pays du premier contingent sud-africain après leur retrait de la République démocratique du Congo. Les 249 militaires déployés dans l'est du pays dans le cadre d'une mission régionale sont arrivés sur une base aérienne de Pretoria ce vendredi. En mai dernier, le chef d'état-major de l'armée avait déclaré que le retrait des troupes sud-africaines de la RDC n'était pas un signe de faiblesse, mais un mouvement technique qui permet à la paix et à la médiation de continuer. Fin de citation. Et puis toujours en RDC, au moins 40 morts et un nombre encore indéterminé de disparus dans un naufrage survenu mercredi sur un lac dans le nord-ouest du pays. Bilan provisoire communiqué ce vendredi par le ministre de l'Intérieur de la province de l'Équateur. Au Kenya, l'arrestation ce vendredi de la chef du poste de police de Nairobi, la capitale, où est décédé le week-end dernier un homme qui avait critiqué un officier sur les réseaux sociaux. La police avait initialement affirmé que l'enseignant s'était suicidé durant sa détention en se tapant la tête contre les murs de sa cellule, avant que l'autopsie ne révèle de nombreuses lésions au crâne et au cou incompatibles avec des blessures auto-infligées. La mort en cellule d'Albert Owang, 31 ans le week-end dernier, avait provoqué une forte indignation et des manifestations dans le pays.
Afrique Soir sur RFI.
Au Mali, un convoi de l'armée et de l'Africa Corps, les supplétifs russes de l'armée qui ont succédé au groupe Wagner, a été visé par une attaque des rebelles indépendantistes du FLA, le Front de Libération de l'Azawad, tôt ce vendredi matin. Circulant entre Hanefis et Aguelok, région de Kidal, dans le nord, le convoi est tombé dans une embuscade. Le FLA revendique une grande victoire. L'armée malienne, après avoir démenti toute attaque, assure que la situation est sous contrôle. Le récit de David Bachy.
Dans un premier communiqué, hier en début d'après-midi, l'armée malienne a d'abord démenti toute prétendue attaque et dénoncé des informations fallacieuses destinées à instiller la peur et perturber l'opinion publique. Deux heures plus tard, un nouveau communiqué de l'état-major revendiquait au contraire une double défaite infligée à un groupe armé terroriste avec un assaut le jeudi et une riposte fulgurante hier. Le convoi logistique de l'armée malienne et de ses supplétifs russes de l'Africa Corps, que l'armée ne mentionne pas davantage que le groupe Wagner dans ses communiqués, même s'il s'agit désormais d'une force officielle de Moscou, était composé d'une trentaine de véhicules. Après une première attaque à l'explosif artisanal jeudi, les rebelles du FLA ont tiré sur le convoi hier matin à l'arme lourde pendant plus de deux heures. L'armée a ensuite riposté avec des bombardements aériens, drones, avions de chasse et hélicoptères ont été mobilisés. Les deux camps assurent avoir fait des dizaines de victimes, aucun bilan fiable n'a pu être recoupé. Le FLA revendique également avoir pris possession d'une quinzaine de véhicules, dont un blindé et 12 camions. Les rebelles ont diffusé des images de nombreux véhicules détruits ou emportés.
Ici signé David Bachet, puis au Niger, deux des trois journalistes de la radio privée Sahara FM, arrêtés début mai à Agadez, ont été incarcérés ce vendredi pour atteinte à la défense nationale et complot contre l'autorité de l'État. Arrêtés les 7 et 8 mai derniers, les trois journalistes avaient été transférés à Niamey, la capitale, pour avoir relayé une information diffusée et sur le site du média LSI Africa, information relative à une rupture des contrats de renseignement entre le Niger et la Russie, un partenaire clé de la junte au pouvoir à Niamey. En Côte d'Ivoire, à moins de 5 mois de la présidentielle, l'Union africaine propose son accompagnement pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Proposition faite à l'issue de la visite à Abidjan d'une délégation de l'organisation conduite par le Tchadien Mahamat Saleh Ananif. Il rappelle que la délégation a parlé à toute la classe politique et invite, je cite, « chacun à jouer sa partition ». Je rappelle que plusieurs figures de l'opposition, comme l'ex-président Laurent Gbagbo ou le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, sont exclu de la course à la présidentielle, ce qui alimente des tensions dans la classe politique. La caravane de solidarité avec Gaza, partie de Tunis le 9 juin à destination de la frontière du territoire palestinien du côté de l'enclave assiégée de Gaza, a été stoppée avant Sirte, ville sous contrôle du maréchal Haftar. Les 1700 militants qui traversaient la Libye et comptaient passer en Égypte pour atteindre la frontière de Gaza ont décidé de dresser leur tente sur place à 30 km de Sirte en attendant une décision et des explications des autorités de l'Est libyen. Leur objectif symbolique est de briser, je cite, le siège et le blocage israélien qui affame les Palestiniens en les privant d'aide humanitaire. Les précisions de Houda Ibrahim.
Les militants avaient l'habitude, depuis leur départ de Tunis, de poster des photos et des vidéos indiquant la progression de leur caravane qui marche en soutien à Gaza. Mais depuis jeudi, selon plusieurs participants, l'Internet est ralenti et il est très difficile de poster des images de leurs actions sur les réseaux sociaux. Selon l'un des organisateurs, il faut faire 50 km pour trouver du réseau et donner des nouvelles. Wael Nawar, un coordinateur de la caravane, a expliqué sur Facebook qu'il ne savait pas s'ils allaient pouvoir progresser. Dans les dernières vidéos que les membres du convoi ont postées, on voit de nombreux véhicules et bus à l'arrêt sous une chaleur torride qui frise le 40 degrés. Plus de 2000 personnes, des Tunisiens, des Algériens ainsi que des Mauritaniens et des Libyens confrontés à des conditions difficiles et la population locale leur apporte des vivres et à boire. Les autorités égyptiennes ont fait savoir que toute forme d'action pro-palestinienne organisée par des délégations étrangères exigeait une autorisation préalable.
Une précision signée Houda Ibrahim. Après la hausse des taxes américaines et une possible fin de l'AGOA, la Chine annonce réduire à zéro ses droits de douane sur les exportations de la plupart des pays africains pour développer les échanges avec le continent. Parmi les pays concernés, l'Afrique du Sud, le commerce entre les deux pays a explosé dans les années 2000 avec surtout des matières premières exportées par Pretoria qui affiche sa volonté de se rapprocher du marché chinois. Seulement, certains acteurs économiques choisissent la prudence face à cette décision chinoise. Explication, Valentin Hugues.
Après cette annonce de Pékin, certains acteurs économiques sud-africains comme Criben Reddy, spécialiste de l'économie automobile, restent très prudents.
Sur les matières premières pour les véhicules, on peut imaginer un développement des exportations, mais en règle générale, on ne sait pas du tout ce que cela va donner. Est-ce que la demande des consommateurs chinois pour les produits sud-africains va augmenter, par exemple? Selon moi, on devrait plutôt trouver une synergie entre pays africains, parce que l'Afrique, dans son ensemble, pourrait rivaliser avec n'importe quel autre continent.
C'est aussi l'avis de Icarabele Legae, qui accompagne les exportateurs de fruits et légumes. Pour lui, cette décision est surtout dans l'intérêt de la Chine.
Ça fait partie de la guerre commerciale avec les États-Unis. Les États-Unis laissent un espace, la Chine le comble. Mais pour nous, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'on est plutôt dans une position d'importateur de produits chinois que l'inverse. En Afrique du Sud, on a la chance d'exporter beaucoup de fruits vers la Chine, notamment des pommes, parce qu'elles sont très rares là-bas. Mais je crois que cette décision, c'est surtout pour négocier encore plus et nous dire les droits de douane sont à zéro, on peut donc envoyer encore plus de nos produits chez vous.
La Chine n'a pas encore précisé l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Un cargo échoué près de la ville de Diego Suarez, dans le nord de Madagascar, laisse craindre une catastrophe environnementale. Tombé en panne dimanche dernier, il a dérivé jusqu'à une barrière de corail qui encercle la mer d'Émeraude, joyau de biodiversité et haut lieu du tourisme à Madagascar. Si les autorités se veulent rassurantes en écartant tout risque de pollution, eh bien, des traces de fioul ont pourtant été découvertes sur un îlot avoisinant. Les précisions de Guillaume Fabry.
Une pâte noire visqueuse dégageant une forte odeur de fioul. C'est ce qu'ont découvert des pêcheurs et des touristes sur l'une des plages de l'îlot Nossi Suarez, au lendemain de l'échouage du cargo Amori, à quelques centaines de mètres de là. Cette pollution aux hydrocarbures, attestée par de nombreux témoignages et photographies recueillies par RFI, est cependant démentie par le ministère de l'Environnement et les autorités maritimes, qui assurent qu'aucune fuite n'a été constatée sur ce navire transportant du riz et du ciment. Par précaution, les 20 tonnes de fioul lourd contenues dans ces cuves ont tout de même commencé à être vidées dans des bidons. Le cargo, sous pavillon malgache, long d'une centaine de mètres, doit ensuite être dégagé grâce à deux bateaux de pêche chinois basés au port de Diego Suarez, sans qu'une date n'ait encore été fixée. Des tortues aux poissons tropicaux, les eaux turquoises de la mer d'Émeraude abritent une biodiversité exceptionnelle. Le site fait vivre le secteur du tourisme ainsi que des communautés de pêcheurs qui ont entrepris de retirer elles-mêmes les couches d'hydrocarbures présentes sur l'îlot Nossi Suarez. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Et la protection des océans était justement au menu du sommet des Nations Unies sur l'océan organisé à Nice dans le sud de la France. Pendant une semaine, 153 pays et 12 000 délégués se sont réunis pour plancher sur une meilleure protection des aires marines. Et au cours de ces discussions, Jeanne Richard, les pays africains ont fait avancer plusieurs dossiers.
45 États africains étaient représentés à Nice cette semaine et une quinzaine de chefs d'État ont fait le déplacement, explique Julien Rochette, qui dirige le programme Océan de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
Le positionnement des pays africains a été très allant et a montré un intérêt sur l'ensemble des dossiers océans en cours, le plastique, la décarbonation du transport maritime, l'adaptation évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique. On a vu aussi beaucoup d'initiatives des pays africains sur les questions de haute mer.
Et ce traité sur la haute mer vise à protéger l'océan au-delà des zones exclusives des États, dans les eaux internationales. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie l'ont ratifié cette semaine et une dynamique s'enclenche pour protéger le golfe de Guinée.
On commence à discuter de premières possibles aires marines protégées au large des eaux de l'Afrique de l'Ouest sur proposition des pays africains. Donc le Nigeria est moteur en fait d'une initiative qui pourrait être collective par l'ensemble des États de la CEDEAO.
En attendant, le Ghana a déjà annoncé interdire le chalutage de fond et les autres pratiques de pêche industrielle sur l'ensemble de ses eaux territoriales. Une victoire pour les petits pêcheurs artisanaux et pour l'océan. Jeanne Richard, Nice, RFI.
À noter également l'annonce d'une nouvelle aire marine protégée en Tanzanie, mais aussi le manque de financement pour la conservation de l'océan, souligné par Madagascar, le Libéria et la Sierra Leone. On en vient au sport avec le choc au sommet du championnat guinéen de football qui opposait ce vendredi le Afia FC au Oroya AC. Les deux plus grands clubs de Conakry se disputaient quasiment le titre de champion et c'est le Oroya qui l'emporte 1-0 et relègue son adversaire à 11 points alors qu'il reste désormais 4 journées à disputer. Seul un miracle permettrait à Afia d'y croire encore. Notre correspondant Tierno Yadialo a demandé à Noun Diané, l'entraîneur du Oroya, si lui, il croyait au sacre.
À moitié, et ça reste 4 journées, on va essayer de bien terminer.
Oui, c'est important parce que par rapport au tournoi, réellement, on est arrivé à un moment où réellement du championnat, où on tombe sur le deuxième du championnat. Et c'est très important. Quoi qu'on dise, hein, la pression est énorme. La pression est énorme et on joue sur le terrain du deuxième. Et il y a tout ça. Après, il y a un autre facteur, c'est qu'il y a cette rivalité aussi. Afia, Oroya, Kadoum, Oroya. Donc ce match-là, il y avait énormément de danger. Donc il fallait impérativement préparer les joueurs sur le plan mental pour qu'ils comprennent réellement l'enjeu. Et c'est ça qui a été fait. Je pense que ça nous a permis de gagner ce match-là.
Voilà les mots de Noun Diané, l'entraîneur du Oroya de Conakry, au micro de Tierno Yadialo. Direction la Sierra Leone, l'un des pays au monde les plus exposés à l'érosion côtière. Près de 2 millions de personnes établies le long des côtes sous la menace de perdre leur habitation et leurs moyens de subsistance. De nombreuses familles ont par exemple déjà dû quitter l'île Blantin, située à plusieurs heures de bateau de Freetown, la capitale. L'île qui comptait autrefois 5000 habitants s'est dépeuplée face à la montée rapide du niveau de la mer. Reportage Lisa Fabian.
L'histoire de l'île Plantin semble sur le point d'être effacée. Une partie des vestiges de cet ancien comptoir commercial portugais a déjà été engloutie par l'océan.
Je dirais qu'à peu près 2/3 de l'île ont disparu. Dans les années 70, les gens cultivaient la terre ici, mais ces champs n'existent plus. À l'époque, ils pouvaient aussi chasser des gros rongeurs, mais ces animaux, eux aussi, ont disparu.
Charles Barley est officier de la marine sierra-léonaise. Il vit à Chengue, la bourgade qui fait face à l'île de Plantin sur la côte.
Je dirais que presque 200 maisons ont disparu dans la mer. Il y avait 3 mosquées ici, mais il n'en reste plus qu'une. La FAO avait fait construire des bandas pour sécher le poisson, et ça aussi c'est parti.
Difficile de dire combien d'habitants vivent encore ici. À la pointe de l'île Plantin, une fine langue de sable permet de rejoindre les grandes huttes dans lesquelles le poisson est fumé. Afsatou dort dans l'un de ces bandas depuis qu'elle a perdu sa maison.
Il était minuit, toute la famille dormait, 15 personnes en tout. Quand une grosse vague est entrée d'un coup dans notre maison et a tout emporté. Nous aimerions partir d'ici car la terre est rétrécie et nous avons peur. Si j'avais de l'argent, je le ferais. Mais je n'ai aucune économie, sinon j'aimerais m'installer à Tombo, le gros port de pêche sur le continent.
Malgré le déclin de l'île, la plupart des jeunes continuent à devenir pêcheurs comme leur père, faute d'alternative. C'est le cas de Mohamed Dongoa.
J'ai étudié jusqu'au lycée, mais maintenant je vais en mer. Pourtant il y a moins de poissons, car certains pêcheurs ont raclé les fonds avec leurs filets jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors nous sommes obligés d'aller très loin pour trouver du poisson. Certains de mes amis, qu'ils pouvaient, sont partis pour essayer de trouver un meilleur travail ailleurs dans le pays. Parce qu'ici, il n'y a rien.
Et certains effets du changement climatique ne sont pas visibles à l'œil nu, rappelle Henry David Bayo, qui travaille pour l'Agence de protection de l'environnement.
Avec l'érosion, l'eau salée s'est infiltrée et s'est mélangée à l'eau des nappes phréatiques. Donc, même trouver de l'eau potable sur l'île est devenu difficile. Ce qui a des implications sur la santé des habitants. On observe aussi des changements dans les courants marins, ce qui a des conséquences sur la pêche. Et puis le plancton, par exemple, ne survit pas à la hausse de la température de l'eau.
Un projet de restauration des mangroves est notamment à l'étude pour tenter de sauver ce qui reste de l'île Plantin avant que l'océan ne l'avale entièrement. Lisa Fabian, de retour de Freetown, RFI.
RFI à Freetown, il est actuellement 22h54. Et place à la musique dans Afrique Soir avec au programme ce soir Carl Audi qui depuis plus de 20 ans fait danser l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Le chanteur, auteur et compositeur sénégalais est de retour avec un album intitulé Move and Groove. Gwendal Lavina l'a rencontré à Dakar.
Dès les premières notes de la première chanson, Doulat, Karloudi nous transporte dans son univers afro-urbain avec une injonction adressée à son public, fais-le.
Tell me now, what you really think about of this now? Don't you think we have to sit and talk? Dolly jilla pillai, jilla lila so, gumuloma pillai, walla walla bo. Don't you think we have to sit and talk?
La chanson est un appel à l'action chez les jeunes dans une période où le doute et l'état du monde peuvent les freiner, estime l'artiste.
Arrêtez de réfléchir, arrêtez d'hésiter. Quand on a une idée et qu'on a envie de partager avec le monde, il ne faut pas hésiter. Just do that. On a trop attendu et quand on attend, on n'a pas tout ce qu'on veut. En tant que leader dans mon domaine, je lance ce message à cette jeunesse d'arrêter d'hésiter, d'aller de l'avant.
Pour faire résonner son message, Karloudi chante en trois langues sur cet album, l'anglais, le wolof et le français.
Partir à jamais. Ou rester à genoux. Est-ce le meilleur ou le pire?
C'est pour mieux me faire comprendre, gagner plus d'espace, faire voyager le mieux, le max de monde. Wolof parce que je suis sénégalais, français parce que c'est notre langue aussi, et l'anglais parce que c'est, on va dire, l'outil pour mieux exporter. Il n'y a pas de différence pour moi. Nous sommes tous habitants du monde entier et là, c'est le moment de parler à tout le monde. C'est pour mieux toucher le max de monde possible.
Un dernier élément apporte un véritable vent de fraîcheur sur l'album et c'est presque une mini-révolution pour Karloudi après 20 ans de carrière, les collaborations.
C'est ce qu'on m'a reproché moi depuis le début. Karlou ne fait pas beaucoup de featuring. Les featuring, ça vient naturellement. Depuis l'écriture des chansons, la composition de la musique, qu'on entend des voix qu'on a l'habitude d'entendre. Ça n'a rien de commercial. Il faut le sentir. Les voix s'invitent elles-mêmes par rapport à la composition. Ils ont spirituellement leur mot à dire. En tout cas, personnellement, un de mes albums n'a jamais atteint ce niveau-là.
Dans Move and Groove, deux chansons voient des artistes prêter leur voix. Only You avec Aubry Daman et Narangshi Diouf avec Pape Diouf, Viviane Chidi et Sidi Diop. Résultat, un album abouti, engagé mais tout en finesse. Probablement le secret de la longévité de Karloudi. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Le baby cap, no, baby. Yes, 24, New York City, Bandakar, Fellas, Narangshi. Love baby cap and no baby gets 24 New York City Bandakar fellas narayu. Narayu lampita courant de coupe fiken de infiltré garde bande you wure 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 ah wure 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 nim la gisele awale. I'm the self-made man in this big game. Drop the key back and chill. Ain't nobody rock this shit better than I. Open your eyes. We gon' reach the God. Keep the link out.
Voilà, c'est au Sénégal et avec la voix de Karloudi que s'achève cette édition africaine réalisée par Théo Redeuil et Jonathan Brady. Rédacteur en chef Alexis Guilleux, assisté de Simon Bulbaudin. Merci à tous les quatre et surtout merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur Radio France Internationale en direct de Paris dans une minute.
Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
Avec la revue Esprit qui s'intéresse ce mois-ci à la Syrie notamment, avec l'anthropologue Véronique Naoumgrap de retour de Damas qui revit après la chute de Bachar el-Assad.
C'était un tel événement et je pense que c'est une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse vivre dans sa vie. Une tyrannie sanguinaire féroce et le tyran qui tombe un jour.
Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 19h10 TU sur RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.